Bienvenue dans le débat, notre espace d'analyse croisé des grandes questions historiques. Bon, aujourd'hui, on va se demander comment un général de 78 ans, une véritable relique de l'armée impériale austro-hongroise, a bien pu offrir la présidence autrichienne aux socialistes en 1951.
Oui, bonjour. C'est vraiment le paradoxe fascinant de cette journée du 27 mai 1951. Theodor Körner, qui bat le conservateur Heinrich Gleisner avec 51,2% des voix, à la surprise générale, quoi.
Voilà, c'est ça. Et la question au cœur de notre analyse, c'est de savoir si cette victoire inattendue, c'est le fruit d'une stratégie de campagne magistrale de la gauche, ou bien le résultat inévitable des fractures sociologiques d'une Autriche qui est encore sous occupation militaire. En tant qu'hôte, je suis convaincu que c'est une véritable masterclass de communication politique et d'habileté stratégique.
Et de mon côté, je suis persuadée que les dynamiques organiques de l'électorat ont primé. Pour moi, c'est le besoin structurel d'équilibre d'une société fragmentée qui a dicté ce résultat bien plus qu'une affiche de campagne.
Alors, regardons d'abord la mécanique de cette campagne, parce que c'est brillant. Les socialistes ont mené une opération quasi chirurgicale en gommant l'idéologie. Ils n'ont pas juste présenté un candidat, ils ont délibérément caché le militant derrière l'uniforme. Ils ont carrément retiré le logo du parti de leurs affiches, hein, pour ne laisser que le mot rassurant de général.
Ouais, enfin.
Attendez, je termine juste là-dessus. En ciblant spécifiquement les anciens militaires de la Fédération des indépendants, ils ont capté une part décisive de leurs 15% de voix. C'est du génie stratégique pur.
Non, mais cette prétendue prouesse de persuasion, ça occulte complètement la réalité du terrain. La Fédération des indépendants, c'était un groupe très hétéroclite avec des déçus du système, des nationalistes. Ils avaient donné aucune consigne de vote officielle. S'ils choisissent Körner, c'est par rejet viscéral de Gleisner.
Un rejet viscéral, vraiment.
Ah, mais absolument. Gleisner, c'était un juriste perçu comme beaucoup trop clérical. Il était issu des jeunesses catholiques. La rancœur tenace contre la démocratie chrétienne provinciale était tellement puissante qu'elle a tout balayé. L'électeur n'a pas été séduit, il a sanctionné.
Sauf que les mathématiques du premier tour racontent quand même une autre histoire. L'écart n'était que de quoi? 42 570 voix. Les conservateurs pariaient logiquement sur l'anticommunisme naturel de ces électeurs d'extrême droite. Surtout après les grandes grèves de l'automne 1950, où tout le pays craignait un coup de force sur le modèle tchécoslovaque.
C'est vrai, la peur était très présente.
Exactement. Ce barrage idéologique, il aurait dû fonctionner automatiquement vers la droite. Donc son échec prouve bien qu'une force active a dû le dynamiter. Ça s'est pas fait tout seul.
Ben, le calcul conservateur était idéologiquement juste, d'accord, mais il ignorait totalement la psychologie humaine. Körner, il a agi comme un paratonnerre. Avec son aura de vieux militaire impérial, sa figure patriarcale a absorbé et neutralisé la charge électrique d'un électorat périphérique aux motivations très contradictoires.
Un paratonnerre passif, en somme.
Voilà, sa nature même a dissous l'opposition de manière passive. Il n'y a pas besoin de forcer un barrage quand l'autre trouve une autre issue naturelle.
C'est joliment dit, mais cette dynamique électorale ne s'est pas arrêtée aux urnes autrichiennes. Elle a immédiatement déclenché les alarmes à Washington et Londres. N'oubliez pas, on est dans un pays découpé en zone d'occupation à ce moment-là.
Bien sûr, oui.
Les Occidentaux voient ce président socialiste, élu grâce à des voix nationalistes instables, comme une menace directe pour les négociations sur la souveraineté. Si Körner n'était qu'un réceptacle inoffensif, comme vous dites, pourquoi une telle panique dans les chancelleries diplomatiques?
Parce que ces capitales anglo-saxonnes, elles réagissaient à l'étiquette partisane de surface, pas à la mécanique profonde. Écoutez plutôt les diplomates français en poste à Vienne à l'époque. Eux, ils repèrent un phénomène beaucoup plus fascinant.
C'est-à-dire?
Loin de créer du désordre, cette élection, elle impose un équilibre de fait. On se retrouve avec un chancelier conservateur, Léopold Figl, et un président socialiste. Sans qu'aucune constitution ne l'ait prévu, ça engendre la fameuse grande coalition et la gestion paritaire de l'État. C'est la société autrichienne qui trouve toute seule son point de gravité.
C'est un éclairage frappant, j'avoue. Le système politique de la cogestion qui va définir l'Autriche pour le reste du XXe siècle naîtrait donc par pur accident d'une élection paradoxale.
Absolument, je suis fascinée par cette ironie politique.
Bon, je m'en tiens quand même que le positionnement tactique a allumé la mèche, hein. La forme a transcendé le fond dans une manœuvre brillante. Mais je dois admettre que cette conséquence institutionnelle donne une dimension assez vertigineuse au rôle des contradictions sociologiques.
Une victoire de la gauche, rendue possible par l'extrême droite, qui accouche du socle de la stabilité nationale. L'équilibre institutionnel est littéralement dicté par les failles de l'électorat, quoi.
Et une stabilité d'autant plus vitale que l'Autriche de 1951 n'est pas encore libre, rappelons-le. Les quatre puissances patrouillent encore dans Vienne, et le traité d'État garantissant l'indépendance n'arrivera que 4 ans plus tard.
Ce qui prouve bien que l'histoire politique ne se déroule pas toujours selon des lignes idéologiques prévisibles. Parfois, le chaos apparent produit l'ordre démocratique le plus rigide.
Tout à fait. Et que l'on mette en avant la force de la stratégie socialiste ou le poids des dynamiques organiques, le résultat est bien là. Cette élection nous invite vraiment à réfléchir à la manière dont des alliances inattendues forgent parfois les institutions les plus durables. Merci de nous avoir rejoints pour ce débat et à la prochaine.